Allez, on reprend la route des midis. Bienvenue si vous nous rejoignez. À 13h, je recevrai les danseurs et chorégraphes Marie-Claude Pietragala et Julien Desrouaux. Et tout de suite, c'est le point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Commence demain et jusqu'à dimanche les 16e journées européennes de l'archéologie. Partout en France et dans 30 pays européens, initiées par le ministère de la Culture et pilotées par l'INRAP, elles permettent aux acteurs de l'archéologie de partager leurs connaissances et au public d'explorer le passé. Parmi les plus de 5000 événements prévus, une grande exposition dédiée à l'âge de bronze ouvre ses portes à Saint-Germain-en-Laye et c'est le dossier du Point Culture du jour. Roland Simon-Billot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice générale du patrimoine au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, où s'ouvre demain une exposition intitulée « Les maîtres du feu, l'âge du bronze en France 2300-800 avant Jésus-Christ ». Alors l'INRAP a décidé de consacrer sa saison 2025 à l'âge du bronze. Est-ce à dire que c'est une période que l'on continue à découvrir aujourd'hui ?
Ah oui, oui, oui. Non seulement on continue à la découvrir, mais je dirais presque qu'on la redécouvre aujourd'hui, notamment grâce à l'archéologie préventive. Parce que c'est une période qu'on a connue longtemps à travers des très, très beaux objets, notamment des beaux objets en bronze ou en or, mais on ignorait à peu près tout des gens qui vivaient à l'âge du bronze. Et ce qui nous a permis de découvrir ces gens, ce qui nous a permis de découvrir les vivants, finalement, à l'âge du bronze, c'est l'archéologie préventive. Et donc, cette exposition, elle a pour but de présenter à la fois les très beaux objets que l'on connaissait déjà pour cette période et puis toutes les découvertes récentes, notamment liées au territoire et à l'habitat et à la façon dont ces sociétés se sont construites.
Alors, un des partis pris de l'exposition est de démontrer que le développement de la métallurgie du bronze a transformé le territoire français. Alors, très concrètement, comment ça s'est manifesté ?
En fait, il a transformé le territoire français, moi, soyons clairs. Il a surtout transformé le territoire européen parce que tout cet âge du bronze, en fait, a pour particularité d'être d'abord un âge européen. C'est un moment où vont se construire des liens très importants, des liens d'échange, des liens commerciaux, des liens aussi de voyage, d'échange entre les gens dans toutes les populations européennes. Et on a vraiment des grandes communautés culturelles très larges qui se construisent en Europe. Et donc, c'est difficile. Finalement, on parle d'un âge du bronze en France, mais c'est à peine vrai parce qu'en parlant de l'âge du bronze en France, on parle de l'âge du bronze en Angleterre, on parle de l'âge du bronze en Espagne, on parle de l'âge du bronze en Allemagne, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc, on est vraiment sur un âge qui est très européen. Parce qu'il faut trouver un exemple. J'évoquerai, par exemple, les lacs alpins et le site, par exemple, du Bourget, où on a un certain nombre de petits villages qui habitent en bord de lac et qui sont des villages que l'on dit un peu des villages de traders, des villages de commerçants qui vont s'enrichir avec le commerce et l'artisanat, notamment de la métallurgie. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Et on voit bien que ces populations alpines, notamment, s'enrichissent de tous les échanges qui peuvent se mettre en place pendant cette période, entre le nord et le sud de l'Europe, et entre l'Europe et la Méditerranée. Mais tous ces courants-là suivent des courants d'échange qui sont quand même ceux que l'on connaît aujourd'hui. La Grande Banane Bleue, toute la vallée du Rhône, la Méditerranée, tout ça, c'est déjà connu, évidemment, à l'âge du bronze, et c'est déjà des lieux de passage et d'échange très intenses.
Alors, vous parliez justement de cette communication qui s'élargit, de cette vision européenne de cet âge du bronze, mais le bronze permet aussi de renouveler la façon de voir le monde, et notamment le ciel. Le soleil, par exemple, revient très régulièrement comme motif.
Le soleil, c'est une obsession de nos populations de l'âge du bronze. On peut pas dire autrement. Il est partout présent et il est partout présent de manière à la fois évidente. Certaines fois, la plupart des sites sont orientés par rapport au soleil, par rapport au solstice, par rapport au lever, par rapport à certaines situations même topographiques qui permettent de jouer avec la position du soleil dans l'année. Et puis de manière figurative, on va le voir dessiné presque. On a un retour de l'étoile qui est très fréquent. On va trouver cette occurrence très fréquemment sur les décors à la fois du quotidien et puis les décors sur les objets exceptionnels. On a une obsession du cercle aussi, de tout ce qui est cercle concentrique, motif circulaire, disque. On voit ça revenir de manière très fréquente. Un usage du compas, du coup, qui est manifeste. On voit d'ailleurs dans l'exposition une petite pièce en os qui est bien marquée du point central du compas et décorée avec des éléments, des arcs et des éléments circulaires. Donc, on est sur une population qui va développer des formes de croyances liées aux astres et au soleil, parce qu'en fait, c'est une population essentiellement agricole qui fonctionne avec un calendrier qui est un calendrier qu'ils doivent connaître, un calendrier des saisons, des actions, des éléments à mener. Et tous ces éléments-là sont bien compris par ces populations qui observent la nature et qui vont développer un certain nombre de moyens pour essayer de prévoir le temps, de le comprendre, éventuellement de se prévaloir de certaines forces naturelles ou tutélaires, de mieux essayer de les comprendre pour les peut-être un peu les contrôler. Alors, ce qui n'est pas forcément toujours simple, mais on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est très fort et qui est très récurrent dans ces populations. En fait, la métallurgie s'est transformée de la pierre en une matière brillante, extraordinaire, dont on peut quasiment tout faire, qui n'existe pas dans la nature. Donc, il y a quelque chose d'un peu magique ou de l'ordre du phénomène un peu prométhéen. On devient presque un dieu quand on pratique la métallurgie. En tout cas, on fait quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et ça doit quand même, d'une certaine manière, changer un peu la façon dont l'homme se considère par rapport à son environnement.
Alors, on l'évoquait en introduction, hein. Est-ce que ces temps de communication, comme ces journées européennes d'archéologie, permettent, selon vous, au grand public de constater la vivacité des recherches archéologiques et en fait leur importance pour comprendre également notre monde d'aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression que ces opérations de communication servent à quelque chose ?
J'espère. Franchement, je l'espère. La période que l'on vit n'est pas simple, hein. On est tous d'accord là-dessus. Et peut-être que l'âge du bronze nous montre une période pendant laquelle, évidemment, les populations comptaient forcément les unes sur les autres. Il y avait un rapport à l'échange à l'autre qui était essentiel. Le bronze, c'est un alliage. D'accord? C'est un alliage qui est constitué de cuivre et d'étain, un alliage dit binaire. Donc, on est sur des bases d'un alliage qui nécessite d'avoir ces deux métaux, et ces deux métaux ne se trouvent pas au même endroit, en Europe et dans le monde. Donc, il faut forcément s'allier pour pouvoir avoir des ressources de bronze. Et le bronze, il est très important parce que non seulement c'est un métal qui est beau, c'est un métal dont on peut faire des parures, effectivement, mais c'est aussi un métal qui permet de faire des armes et des outils. Et ça devient un élément, une ressource, une matière première qui est essentielle à ces sociétés de l'âge du bronze. Et cette notion de l'échange, elle est vraiment au cœur même de cette période. Mais globalement, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas des îlots, et qu'on vit ensemble depuis très longtemps, et que ça se passe par des échanges de technicité, des échanges de matières premières, des échanges de mythes, des échanges de gens. Forcément, ça, tout ce monde bouge, et je pense que c'est un élément qui est important de rappeler encore aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup Rolande Simon-Millot. Je rappelle que l'exposition Les Maîtres du Feu au Musée d'Archéologie Nationale à Saint-Germain-en-Laye se visite jusqu'au 9 mars 2026. Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Günther Wecker est mort à l'âge de 95 ans.
Oui, l'artiste allemand était connu pour son œuvre façonnée de clous qu'il plantait sur des toiles, mais aussi sur des chaussures, des meubles ou des instruments de musique. Une approche minimaliste à coups de marteau qui mettait l'accent sur le mouvement, les ombres et les volumes. Une forme d'expression dans le rejet aussi de l'académisme et des traditions artistiques pour un homme du XXe siècle, marqué par le régime nazi, puis communiste en Allemagne de l'Est.
Le verdict pour les faussaires de chaises du XVIIIe siècle a été rendu.
Oui, depuis 2008, leurs faux meubles royaux étaient si parfaits qu'ils ont leurré tout le marché de l'art. Bill Palot, éminent expert en sièges du XVIIIe siècle, qui avait organisé la fabrication et le commerce de faux sièges, dont certains ont été vendus à Versailles, a été condamné hier à 4 ans d'emprisonnement, donc 4 mois ferme, à 200 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer pendant 5 ans. Bruno Desnoux, menuisier réputé du faubourg Saint-Antoine, qui avait fabriqué les faux, est condamné quant à lui à 3 ans de prison, dont 4 mois ferme et 100 000 euros d'amende.
Et pour finir, Marie, le magazine Time va être disponible en français.
Oui, dès décembre 2025, la prestigieuse publication américaine sera disponible en kiosque, mais aussi dans des lieux dits premium, hein, soit des hôtels de luxe ou des salons d'aéroport. Le magazine américain a confié au groupe 360 Business Media, qui a déjà orchestré la déclinaison française du magazine Forbes, la tâche de franchir pour la première fois les frontières des États-Unis. Time France comportera des articles rédigés par une rédaction en France, mais aussi des traductions d'articles de la version américaine. Le magazine prendra la forme d'un trimestriel d'environ 200 pages.
Merci Marie, on se retrouve demain.
À demain.
De nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h, vous êtes sur France Culture.